Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur.
Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur.
Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur.
C'est ça le secret du bonheur.
Alors, bonjour et bienvenue à cette troisième saison de Tous les profs en parlent avec Azra.
Et Stéphanie, content de te retrouver.
Oui, est-ce que t'as passé de belles vacances?
C'était parfait. Un peu de repos, un peu de planif, tout va bien.
Oui, c'est difficile de sortir la planification pendant les vacances pour un prof. Là, c'est... Je pense que j'en connais pas beaucoup là, qui décrochent complètement. En fait, ceux qui le font, c'est je les admire parce que c'est pas facile de décrocher vu qu'on pense toujours à nos élèves.
En effet, c'est un métier à l'année longue.
Effectivement, et on arrive au bon moment. C'est la rentrée, notre troisième saison qui commence. On est vraiment fébrile, on est super contente d'être avec vous encore à nouveau cette année pour vous permettre d'avoir un peu les dessous de la profession enseignante. Et je suis également très heureuse de partager que moi aussi, je suis de retour sur le terrain cette année. Donc, je vais pouvoir également aller réincorporer mon expérience en tant qu'enseignante, mais en même temps, vous ramener ce que je trouve sur le terrain. Cette année, j'ai l'opportunité d'enseigner au niveau collégial, donc avec les étudiants. Donc, ça va être une belle façon de coopérer.
On va pouvoir comparer primaire, secondaire, collégial, université, d'enseignement, puis la pédagogie, il y en a partout. Hein?
Effectivement, c'est sur tous les niveaux, l'importance de la pédagogie. Alors, nous voilà, c'est la rentrée. Justement, les deux, on se retrouve à faire la planification. C'est un peu un... Je dirais pas que c'est un sujet tabou, mais c'est un sujet qui est essentiel en début d'année, mais tellement anxiogène pour beaucoup, surtout les jeunes enseignants qui, pour la première fois, qui ont un contrat, qui doivent faire une planification pour l'année au complet, qui peut vraiment être stressant. Et même pour les vétérans, des fois pour les enseignants qui veulent changer leur pédagogie, veulent changer leur thématique ou peut-être qui ont changé de niveau. Donc, il y a une adaptation, tout comme moi, il y a une adaptation à faire. Donc, aujourd'hui, on discute, Stéphanie et moi, pour vous soutenir dans votre planification de comment planifier comme un pro en enseignement pour faire en sorte que votre année soit douce et beaucoup plus plaisante en sachant exactement où est votre intention pédagogique et vers où vous devez amener vos apprenants.
Mais en fait, c'est ça le problème avec la planification, c'est que des fois, on la apprend comme acquise, puis on la fait mécaniquement, mais c'est le secret pour que ton entrée soit beaucoup plus agréable, c'est de mettre l'effort au début. T'sais, on sait que moi, mon amour pour la planification à rebours est très connu, donc... On va en parler aussi de cette planification, cette méthode-là qui est pas connue de tous.
Effectivement, mais en même temps, j'adore que tu aies amené ça parce que certains de nos auditeurs et auditrices ne savent peut-être pas, mais tu avais publié quand même un article concernant la planification à rebours dans une revue pédagogique. Est-ce que tu pourrais justement nous en parler un petit peu ce que c'est?
Ben, en fait, la planification à rebours, c'est au lieu de penser de A à Z, donc je vais faire ma matière, ensuite je vais enseigner de cette manière-là pour arriver à faire cet examen-là, et ainsi de suite. On va y aller à rebours, c'est-à-dire que on va vraiment poser la question sur ton intention pédagogique, parce que là, faut aussi mettre l'accent sur c'est quoi l'intention pédagogique versus le programme, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'intention pédagogique d'un prof, c'est de montrer toutes les notions du programme. Moi, je vois plus le programme comme un outil à côté pour amener de l'intention pédagogique. Je donne un exemple. L'année passée, mon intention pédagogique, c'était d'augmenter l'estime personnelle des élèves en mathématiques. Et c'est pas écrit dans le programme.
Non, pas du tout.
J'ai utilisé notions du programme pour m'amener à mon intention pédagogique. Mais c'est vaste, une intention pédagogique. T'es pas obligé toujours
de... Ça, c'est un exemple parfait là, que t'as amené, que c'est pas très mécanique. Est-ce qu'on pense que justement, il faut qu'ils apprennent des fractions, il faut qu'ils apprennent, c'est beaucoup plus large et vaste que ça.
Ben, c'est penser à c'est quoi l'enseignement au terme général. Qu'est-ce que tu veux que l'élève apprenne et non juste la matière. Donc, exemple, si mon intention pédagogique, c'est d'augmenter l'estime personnelle, une planification à rebours, ça va faire en sorte de quelle activité pourrait faire en sorte que mon intention soit comblée. C'est sûr que tu vas mettre les notions, et ainsi de suite, mais tu vas toujours avoir ton intention en tête, ton évaluation, tes projets, ainsi de suite, va tout le temps avoir en tête ton intention. Donc, tu vas avoir une cohérence versus y aller de A à Z, que finalement, tu te rends compte à l'examen de faire « Ah, je vais construire mon examen parce que j'ai enseigné ces notions-là », mais tu vas pas être dans la même cohérence de « C'était quoi mon but de l'enseignement pour cette année ?»
Oui, puis c'est aussi le mot-clé à travers tout ça qu'on n'en parle pas assez, c'est l'adaptation. En fait, on a une intention, on a un but à atteindre, on veut amener les apprenants à un certain niveau. Ce que je vois souvent, en fait, l'erreur que je vois souvent auprès des professionnels, c'est qu'ils vont, ils ont tendance à couler dans le béton leur planification. Là. Et là, il faut que à tel moment, telle matière soit apprise et par la suite, ben il y a des exceptions parce qu'on travaille avec des êtres humains. Donc, cette planification à rebours-là est essentielle, mais en même temps, il faut tenir compte qu'à l'intérieur de cette planification-là, il va y avoir tout plein d'ajustements qui vont se faire en fonction de qu'est-ce qui va arriver de notre côté, parce qu'on connaît même pas les groupes. C'est ça, je pense que ce qui est le plus stressant parfois pour l'enseignant, c'est qu'il va faire une planification à long terme sans avoir connu ses élèves ou, pour mon cas, mes étudiants. Donc, je fais une planification. Oui, je suis consciente des besoins, en fait, il faut qu'ils atteignent certains niveaux de connaissances, de compétences également, il faut qu'ils développent, mais ça reste que tu peux tomber devant un groupe et réaliser que, oh, OK, la planification que je viens de faire... Faut-tu que je la mette à l'eau? Mais en même temps, la réponse est non, faut l'adapter. T'sais, on a tout un point d'arrivée qui va être pareil, mais c'est comme comment qu'on va s'y rendre pour aller chercher ces points-là. Donc, c'est un peu on a tendance à entendre souvent le niveler par le bas, ajuster. Moi, je crois pas à ça. Je pense que ce qu'il faut ajuster, c'est la manière de présenter la matière. Je pense pas que des apprenants ils ont pas la capacité d'apprendre ou « Ah, ben c'est un groupe faible, fait que je vais enlever telle affaire. » Je pense que c'est de la manière qu'on va le présenter. Puis bien sûr, on peut pas se fier à, tu sais, un peu cette planification-là qui est coulée dans le béton, qui dit « Ben, le 27 février à 2h10, je vais présenter tel aspect de la matière. » Il y a beaucoup d'enseignants qui sont comme ça. Il y a beaucoup de professionnels. Je le vois, j'ai tendance plus à le voir au secondaire. On a tendance à le voir, c'est sûr qu'il y en a au primaire aussi. Mais j'ai toujours été un peu troublée par ce oui. type de planification-là. Ça peut peut-être créer une assurance auprès de ces enseignants-là, mais ça risque que c'est pas...
Mais moi, qu'est-ce qui me fait rire, c'est aussi au photocopieur.
Ah oui, quand, en début d'année.
Quand, ouais. En début d'année, quand certains enseignants ont déjà... imprimé l'évaluation de fin d'étape en disant « Moi, mon étape est coulée. » Mais, comme on dit, tu n'as pas encore connu tes élèves. Donc, si tu as un groupe qui est très performant en connaissance, mais que les méthodes de travail sont à travailler, ça se peut que tu vas plus aller vers une méthode par projet pour les aider à s'améliorer versus faire un examen de connaissance. Donc, tu peux pas selon moi, tu peux pas imprimer non, pis tu toutes peux tes pas. Copies le jour 2, là.
Non, puis tu peux pas garder ta même planification année par année parce que les élèves qui arrivent, les apprenants qui arrivent vers nous sont différents. Donc oui, on peut garder l'intention.
Le squelette.
Exactement.
Tu peux garder le squelette. C'est rajoute des feuilles dans l'arbre puis pour l'améliorer, mais t'es pas obligé de tout le refaire. T'as un bon 80% que tu peux garder, mais changer les projets aussi. J'ai des élèves que, moi, en début d'année, je fais tout le temps un sondage pour apprendre à connaître mes élèves, les intérêts, ainsi de suite. Puis, il y a une année que j'avais beaucoup, beaucoup de joueurs de basket. Mais j'ai fait un projet sur le basket dans ce groupe-là, puis ils étaient contents, mais j'avais pas planifié ça l'année d'avant. Parce que, même principe, s'il y avait plus de musiciens, mais ça se peut que change quelques éléments qui n'est pas des efforts colossaux, mais c'est juste pour que l'élève ait un peu plus de motivation. En faisant ça, tu as une meilleure gestion de classe, tu as une meilleure relation avec les élèves. L'année, elle va juste être plus agréable. Là.
Oui, puis accepter aussi de délaisser certains
projets.
Oui, exactement, certains projets, certains apprentissages, parce que c'est ça, ça fait partie, mais... Mettons qu'on parle pour nos jeunes enseignants concernant la planification, ils arrivent, ils ont des nouveaux élèves, des nouveaux étudiants. Alors, dans ce cas-ci, il faudrait penser à l'intention. Où est-ce qu'ils veulent amener leurs apprenants? Fait que l'étape 1, ça c'est vraiment de planifier qu'est-ce qu'ils doivent apprendre cette année. Donc, pour moi, c'est le point de départ.
Au-delà des notions.
Ah oh, ouais, tout à fait.
Exemple, mettons, en langue, si on regarde, mettons, la communication orale, qu'est-ce que tu veux que l'élève, à la fin du parcours... Puis chaque enseignant va être différent parce que chaque enseignant a une couleur différente. Il y en a qui vont travailler la fluidité, d'autres vont travailler les arguments, et ainsi de suite, mais ils vont toujours travailler l'ensemble. Mais ton intention, c'est l'élève à la fin, qu'est-ce que tu veux qu'il aille? C'est ça qui est important. Puis avec cette idée-là, mais tu vas être capable de construire tes projets en fonction de... Toujours en fonction de... Puis l'élève va être aussi... Il va avoir un cadre. Moi, personnellement,
donc,
je partage...
Établir des objectifs clairs.
Mais personnellement, je partage mes intentions pédagogiques avec mes élèves. Exemple, en chimie, mon intention, c'est de travailler des méthodes efficaces de travail pour qu'à long terme, dans leur vie d'adulte, ils aillent ces méthodes-là. Je leur dis, et c'est pour ça qu'on fait certains projets avec certaines matières, avec certains logiciels, ainsi de suite, pour travailler là-dessus. Mon intention est complètement différente en mathématiques. Donc, c'est... En le disant aux élèves, ben quand on propose un projet, puis on va faire ça, ça va vous amener à ça, ils comprennent mieux, puis ils sont beaucoup plus motivés et impliqués.
Ah, c'est sûr qu'il faut mettre les cartes sur la table, comme qu'on dit, parce que les autres aussi, ils sont pas là pour juste passer leur moment. Il faut qu'ils soient conscients du travail qu'ils doivent en fait investir de leur côté, puis également où est-ce qu'on veut les amener. C'est sûr que des fois, on peut se retrouver, souvent en fait, on peut se retrouver dans des écoles où est-ce qu'on prend la charge d'un enseignant et là, le bureau, il est vide. Et là, c'est la panique qui prend le dessus parce qu'on n'a pas de planification, on sait pas quoi faire. Puis on n'ose pas souvent déranger les autres enseignants parce que la réalité, c'est que tout le monde déborde en début d'année, c'est stressant, donc on n'ose pas en parler. Faut juste rappeler en fait tout le monde qu'il y a différentes ressources. Il y a des ressources, ils peuvent toujours s'informer auprès du ministère de l'Éducation sur les différents sites Internet connaître, justement...
La progression des apprentissages.
Oui, le programme, effectivement. Puis, moi, ce que je conseille souvent, on en avait déjà parlé, d'aller joindre des groupes Facebook.
Ah, les réseaux sociaux sont vraiment une source, de réconfort pour les nouveaux aussi, parce que tu te rends compte que t'es pas le seul à se poser autant de questions, ainsi de suite. Et il y a des belles ressources pédagogiques là-dedans. Là.
Oui, fait que c'est ça, c'est vraiment de pas être gêné. Puis bien sûr, demander aux collègues aussi d'être capable d'établir un lien de contact avec un collègue et être en mesure de poser des questions sans trop surcharger non plus. Des fois, on n'ose pas. Mais grâce à l'Internet, grâce à la technologie aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un avantage parce que non seulement dans ces groupes-là, on peut trouver soit par matière, par niveau, mais on peut également... avoir d'aide quant à la planification, avoir d'aide à différentes ressources d'exercices ou de livres ou quoi que ce soit pour pas qu'on parte vraiment les mains vides. Puis la beauté de la chose, c'est que oui, malheureusement, sur le site Internet du ministère de l'Éducation, on n'a pas nécessairement une panoplie de cahiers d'exercices ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il y a certains centres de services, quand on va sur leur site Internet, donc allez les voir, différents, peut-être pas le vôtre, mais un autre qui vont offrir justement le programme avec différents exercices qui vont être liés, qui va pouvoir vous donner un peu de viande sur ce squelette-là. Mais c'est sûr qu'en partant, il faut partir avec le squelette, fait qu'il faut avoir des objectifs clairs, faut planifier, puis il faut organiser à travers, comme dans un temps, un barème de temps, parce qu'il faut calculer. Malheureusement, il y a 3 étapes. On aimerait ça qu'il y en ait juste 2. Ça serait l'idéal, je pense, que pour tout le monde, où est-ce qu'on pourrait vraiment se concentrer sur la progression des apprentissages. Mais le fait qu'il y a 3 étapes, mais il faut en tenir compte qu'il faut évaluer certains aspects beaucoup plus rapidement. Et sans oublier, on a tendance, parce que des fois, les jeunes enseignants sont pas informés non plus, puis même les vétérans, il faut pas toujours évaluer toutes les compétences.
En effet, c'est exactement ça que j'allais dire. C'est quelque chose que le ministère a écrit, donc c'est officiel, mais tu es obligé d'évaluer 2 fois par année, je parle au secondaire, chacune des états, des compétences. C'est-à-dire que, mettons, la compétence en mathématiques de résolution de situation problème, ben moi, à l'étape 1, je la fais pas. Parce que je veux prendre le temps de connaître mes élèves, d'avoir une bonne relation, et ainsi de suite. Donc, je vais mettre l'effort pas sur toutes les compétences, mais je vais prendre en compte le fait que ça me prend du temps pour établir un climat d'apprentissage sain, positif, ainsi de suite. c'est normal de ne pas évaluer toutes tes compétences, la première étape. Tu as le droit de faire ça aussi.
Ah oui,
là.
Oui, puis ils ont accès à cette information-là, puis je la mentionne parce que moi, quand j'ai commencé, je n'étais pas consciente de ça, parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils nous apprennent à l'université, qu'ils nous disent « Ah, il faut évaluer ». Tu sais, il y a beaucoup de manquements à l'adaptation du programme vis-à-vis l'école québécoise, mais je m'en rappelle, puis tu sais, j'avais de la boue dans le toupette, là, je courais partout, j'évaluais les trois compétences. Puis
trois traces par compétence.
C'était, je me posais la question comment que les enseignants survivaient avec toutes ces évaluations-là, et après, je pense que c'était à ma troisième année d'enseignement, tu sais, ça a été quand même long, où est-ce qu'il y a un enseignant qui m'a dit, ben, t'as pas besoin d'évaluer cette compétence-là à telle étape, c'était juste la troisième étape qu'on évaluait, en fait, toutes les trois compétences en anglais dans mon cas. Et là, j'ai eu un moment de, ben, voyons donc, comment ça se fait que personne m'avait dit ça, mais c'est pas nécessairement une discussion qu'on a, c'est pas tout le monde qui est au courant non plus, donc c'est important de vraiment bien comprendre non seulement le programme, mais le système d'évaluation également, parce que ça, ça en fait partie.
C'est aussi l'évaluation.
Ouais.
On n'est pas obligé d'évaluer toutes les notions.
Oui.
C'est pas ça. L'évaluation par compétence, il n'y a aucune trace qui dit que tous les chapitres doivent être évalués. Tu as le droit de voir un chapitre, entre parenthèses, là, le chapitre, mais juste pour enseigner l'apprentissage, puis de l'évaluer plus tard ou pas. Tu as le droit de mm-hmm. pas évaluer une notion.
Ah, c'est bien que tu le mentionnes, parce que des fois, on est tellement dans le tourbillon de « faut tout évaluer, faut tout prendre en considération ». Non, c'est correct une fois de temps en temps, puis moi, ça m'est déjà arrivé de délaisser certaines évaluations puis dire « non, ça, ça n'a pas été si important que ça, ça n'a pas nécessairement amené quelque chose au développement de leurs compétences, fait que je vais délaisser ».
Ça répond pas à mon intention,
effectivement.
Mais faut l'enseigner.
Oui.
Tu peux travailler. Oui, j'ai des élèves qui ont fait des sacrés beaux projets, mais est-ce que j'ai été obligée, je leur ai donné une rétroaction. Mais j'ai considéré le fait que la trace n'était pas autant significative que je voulais. Et on l'a juste pas considéré dans leur portfolio. Par contre, il y a eu de l'apprentissage, il y a eu du travail, ainsi de suite. C'est pas parce qu'on l'évalue pas qu'il n'est pas important dans notre enseignement.
J'aime t'as amené le mot-clé « portfolio ». En fait, c'est quelque chose qui est un peu mis de côté lors de cette planification-là. Des fois, on est comme, si on dirait que c'est une course contre la montre, dans le sens que les gens vont planifier, ils vont faire leurs examens, mais ils vont pas penser aux traces et à la progression des apprentissages à travers tout ça. Parce que le but premier, en fait, d'un enseignant, c'est pas de vomir de la matière, là. J'haïs ça dire ça, mais des fois, c'est le cas. Mais c'est vraiment d'amener ton élève à progresser dans ses compétences, à atteindre certains buts, puis c'est pas obligé qu'il y ait une note spécifique. L'important, c'est qu'il y ait une progression. Puis on parle souvent de traces. On parle souvent de, justement, ce portfolio-là que ça fait peur à beaucoup d'enseignants parce qu'ils voient ça comme vraiment une charge de travail énorme. Puis là, je pense qu'ils se perdent à travers. Mais c'est quoi une bonne trace? Qu'est-ce qui fait en sorte que je peux bien évaluer?
Ils voient en tant que matériel un dossier par élève. J'ai 133 élèves. Je vais avoir une pile de dossiers à évaluer. C'est tellement pas ça.
c'est bien qu'on en parle parce qu'il faut mettre ça de l'avant. Parfois, certaines personnes ne sont pas conscientes que juste faire une observation en classe, c'est des traces. Prendre des notes, avoir une grille en sa possession.
Une discussion avec l'élève, c'est une trace.
Effectivement, une discussion. Donc, c'est pas nécessairement la note, la finalité, là. Puis, tu sais, moi et toi, on en parle souvent, là. C'est le processus et non la finalité. Donc, que vous accumulez trois examens avec des notes dans un portfolio, c'est pas signe de trace. Trace, c'est beaucoup plus que juste l'examen qui a passé. Donc, c'est à partir de là qu'il faut un peu briser les barèmes. C'est prendre des notes, faire des grilles d'observation, avoir la discussion, une entrevue avec l'élève. Est-ce qu'il est arrivé à la récupération? Est-ce que ça, c'est des traces. Donc, c'est tout ce qui concerne l'implication et le processus de compréhension et d'apprentissage d'un élève, d'un apprenant, mais sans alourdir nécessairement la tâche. Parce que en tant que pédagogue, on le voit, ces choses-là, c'est juste parce qu'on n'a pas tendance nécessairement à les noter. Et la meilleure façon, c'est vraiment de prendre une liste, la liste d'élèves, et de se faire des petits codes. Des fois, je vois souvent des enseignants prendre des codes s'il a participé en classe. Des fois, ils vont prendre des grilles, ce que j'adore, tu sais. On est des fans finis de grilles.
La grille n'est pas obligée d'être complexe, là.
Pas du tout.
Ça peut être vraiment un aide juste d'observation, mais je vais même en chérir avec le fait que dans le portfolio, s'il y a trois évaluations du même type, même si c'est pas la même matière, selon moi, c'est rien qu'une trace.
Ah oui, je suis tellement d'accord. C'est bien que tu le mentionnes. Parce que
des fois, on a tendance à penser qu'on évalue les apprentissages au lieu des compétences, mais si c'est le même style d'examen, techniquement, est-ce qu'on évalue la capacité à l'élève à faire ce style d'examen-là? Si oui, c'est rien qu'une trace, c'est la même trace. Peut-être que l'élève, lui, en projet, il est très, très performant, mais en examen, non. Peut-être qu'en discussion, moi, j'ai beaucoup d'élèves que j'ai fait des évaluations un peu plus standard, puis je revenais en discussion, puis j'étais comme, oh, attends peu, non, là,
ouais.
Tu la comprends, la matière, qu'est-ce qui s'est passé? Puis l'élève était comme, être devant un examen, c'est très anxiogène, je suis pas capable. Mais c'est sûr que mon jugement professionnel va changer. Puis ça, dans ta planification, prends le temps de dire, ben ma rétroaction individuelle, je vais la faire pour cette trace-là, ainsi de suite. Faut changer le mode de dire que toutes les évaluations vont être la même affaire parce que toi puis moi, on est des humains aussi, là. On peut pas être performant tout le temps.
Non.
À la même place, à la même manière.
Puis j'adore que t'as amené ça parce que c'est ça aussi, c'est un peu un stéréotype en éducation lorsqu'on a tendance d'évaluer d'une seule façon. Et parfois, il faut varier sa façon d'évaluer l'acquisition des compétences parce que le but, c'est pas justement de connaître sa capacité de passer un examen, mais c'est est-ce que réellement il y a un apprentissage durable qui s'est fait? Est-ce qu'il y a eu un développement de compétences? Et c'est là que justement, je pense que l'entrevue, puis j'allais justement revenir sur les traces. L'auto-évaluation, ça fait peur à beaucoup d'enseignants parce que ils voient ça comme une lourdeur, mais pourtant, il y a des différents logiciels, dont Zélectio, mais il y en a d'autres aussi que tu envoies ta grille à l'élève ou à l'étudiant et laisse-leur s'évaluer, s'auto-évaluer parce que ça aussi, c'est une belle trace pour démontrer parfait. Donc, de pas être gêné de partager une grille et de laisser l'élève prendre connaissance également d'où est-ce qu'il est rendu dans son processus d'apprentissage. Parce que un élève qui voit une note, qu'elle soit chiffrée ou cotée, peu importe, quand on lui pose la question, mais qu'est-ce que tu as réellement appris? Mais il va avoir un petit délai de réponse parce que lui, il va dire, ben, je passe la matière, donc je comprends la matière.
Exactement. Ton auto-évaluation aussi, il faut que tu laisses la possibilité à l'élève de s'expliquer. Moi, j'ai fait des auto-évaluations avec des élèves, puis j'ai appris des choses que j'ai fait tard, j'avais pas vu ça comme ça, mais tu connais beaucoup mieux ton élève quand tu lui permets de s'expliquer, puis c'est ça qu'ils veulent aussi. Mais pourquoi on en parle? Parce qu'on parle d'évaluation, puis des personnes vont dire « Hey, vous êtes supposé de parler de planif? »
Mais ça en fait partie.
Exactement.
L'évaluation, c'est le point de départ.
Ce que je voulais dire était plus la planification à rebours, c'est planifier aussi ta méthode d'évaluation au départ. Tu peux pas non plus, parce que toute part de ta planification à rebours. Tu peux pas décider que ton évaluation va être une contextualisation d'une mise en situation, exemple, mais que tu l'as jamais enseigné dans ton cours, puis de comment le faire. Faut aussi expliquer le dans ta planification, faut que tu sois en cohérence. Si tu demandes de faire un projet X, mais dans ta planif, tu vas avoir expliqué comment réussir un projet X. Donc, c'est aussi, il faut que tu penses à, oui, tu vas changer ta méthode d'évaluation, mais il faut aussi que tu penses à enseigner comment réussir cette méthode d'évaluation-là.
Ouais, effectivement, puis ça revient justement encore, on se répète et on se répète, l'évaluation n'est pas une finalité. En fait, c'est le point de départ, parce qu'on avait parlé, il faut savoir c'est quoi les différents types de connaissances ou le développement de compétences qu'on veut faire avec la planification à rebours, c'est le point de départ. Mais en pensant à ça, faut penser ben comment je vais évaluer l'acquisition de ces connaissances-là, comment je vais évaluer l'acquisition de ou le développement de la compétence. Fait qu'en partant l'évaluation, pour moi, ça a toujours été un point de départ. Puis l'évaluation, c'est pas une finalité, c'est connaître où est-ce que votre apprenant est rendu dans son processus d'apprentissage. Donc c'est comme l'identifier pour être encore mieux adapté pour la prochaine évaluation. Donc c'est pas, tu sais, il faut défaire un peu là, cette stigmatisation de l'évaluation, ça démontre combien il a appris. Parce que j'ai déjà J'ai même entendu de la part d'une collègue dire « Ah, mais tu sais, la personne, elle a 60%, donc elle connaît que 60% de la matière. » Et j'ai tombé un peu en bas de ma chaise en me disant « Ben, ça fait pas de sens, parce que c'est pas ça l'évaluation. La finalité, la note, là, qui est considérée comme une finalité, n'est pas représentative du développement des compétences de la personne. Donc, en partant, ça revient à ce que tu as dit, faut varier ces évaluations et faut également penser déjà avec la planification à rebours. Ça, c'est sûr et certain.
Qu'est-ce qui fait peur, c'est de penser à tout ça en début d'étape, mais t'es pas obligé de tout changer, comme on dit. Vous pouvez commencer par penser à qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez développer, et après, ben l'enseignant, le nouveau enseignant, là, moi, je vais donner mon conseil. Au début, je voulais tout faire par moi-même. Faire des exercices, faire des projets, ainsi de suite. C'est là qu'on peut perdre notre souffle, là. Donc, il existe beaucoup d'outils. Moi, je pense que l'enseignant n'est pas obligé de tout créer par lui-même.
Non, pas du tout.
Surtout au début, sélectionner les outils que tu as besoin pour développer qu'est-ce que tu veux faire, c'est autant un besoin professionnel que créer. Créer, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Tu peux créer, mettons, par étape, un ou deux projets, mais crée pas tout. Il existe des plateformes, il existe des outils, il existe des collègues qui vont partager des éléments. Choisis ton combat, là. T'es pas obligé de refaire toutes tes notes de cours année après année parce que il manquait une virgule ou un exercice qui était pas juste, là.
C'est excellent que tu le mentionnes parce que je pense que cette lourdeur-là de vouloir tout créer de A à Z, bâtir sa propre matière, il n'y a rien de mal. Il y a tellement de ressources qui existent.
Par contre, je vais ajouter, si tu prends les ressources d'une autre personne, s'il vous plaît, laisse la personne écrite. Donc,
oui, c'est ça, les droits d'auteur. C'est
exactement.
Ça, c'est sûr et certain.
Donc,
ça, c'est...
C'est pas grave si tu donnes un exercice de la commission scolaire de Québec par Monsieur X, puis t'es à Montréal.
Mais il faut toujours garder le nom en
bas. Garder au moins les traces pour une reconnaissance de la profession.
C'est la moindre des choses, justement. Là, j'aimerais ça qu'on parle un peu d'un aspect. Fait que là, on avait parlé de la planification à rebours, vraiment planifier où est-ce qu'on amène nos élèves. Puis après ça, tu sais, juste pour le détailler peut-être plus en détail, il y en a parfois qui vont planifier par étape. Il y en a qui vont prendre, OK, j'ai comment de cours par étape, les séparer, penser à tout ça, les évaluations. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a un petit aspect mathématique à travers ça aussi, mais il faut juste pas oublier de garder des cours en flexibilité par rapport à tout ça, de se permettre un pourcentage d'erreur, comme qu'on dit, parce que des fois, on peut être malade, on peut être... Fait que c'est important de pas se dire, ben j'ai 56 cours, c'était assez.
Ça fait 56 heures.
Exactement. Donc, en 56 heures, je vais pouvoir faire ça. Non, c'est vraiment de laisser une flexibilité parce qu'on travaille avec des humains. Il y a toujours des imprévus qui peuvent arriver, mais oui, c'est important de quand même prendre un aspect mathématique à travers ça, de savoir de quelle semaine en semaine on est rendu où et vers où qu'on s'en va. Puis, s'arrêter de temps en temps et faire une rétrospection où est-ce qu'on est rendu dans cette planification-là de l'étape.
Mais j'aime beaucoup le fait, puis il y en a beaucoup qui le font pas, de te laisser des périodes libres. Ça fait en sorte que, un, il y a beaucoup moins de stress pour les élèves et les étudiants, puis pour le prof aussi.
Mmh. Ouais.
Exemple, chaque groupe est différent. En te laissant une période libre, mais il y a un groupe qui a eu plus de difficultés, le prof va pas faire « Ah, attends un peu, là, faut que je change tout de ma planif. » Tu vas le rattraper dans ta période libre. Et au pire, là, le groupe qui a de la facilité, là, ben, il pourrait faire toute autre tâche connexe de la matière. Il pourrait faire de l'enrichissement, il pourrait y aller avec une période un peu plus ludique d'apprentissage, ainsi de suite. C'est pas dramatique.
Non, c'est mon clé, exactement. C'est pas dramatique, puis c'est de s'ajuster à travers ça. Je pense que ce qui arrive souvent, ce qui est pris pour acquis, c'est que les jeunes ont la capacité d'apprendre assez rapidement. Donc, on prend ça souvent pour
le cerveau, c'est une éponge. Hein?
Oui, et l'important, c'est de fournir un environnement propice à l'apprentissage, justement, sans en faire partie de la planification d'une année, parce que parfois, sans gestion de classe, sans tenir compte de l'avancement ou du développement des compétences, on peut se retrouver à donner une matière en 45 heures qu'on aurait pu donner en 20 heures si on avait un environnement propice à l'apprentissage. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre de l'avant parce que c'est pas le temps qui compte, mais c'est de la manière et la rapidité d'apprentissage. Donc, pour que ça arrive, faut avoir établi une relation avec l'apprenant. Étape numéro un, on avait toujours prôné le relationnel auprès des élèves et avoir une gestion de classe béton, comme qu'on dit, pour s'assurer que, bon, j'ai peut-être pris 4-5 cours à faire de la gestion de classe, à établir mes règles, puis ça continue toujours, à faire des activités pour bâtir une relation avec mes élèves. Mais c'est pas grave, parce que ça va faire en sorte que les 10 cours qui restent, je vais pouvoir réellement faire apprendre mes élèves parce qu'ils vont être dans un environnement d'apprentissage. Fait que, comment tu fais pour planifier justement
cet
environnement d'apprentissage?
Je vais même ajouter un élément qui va répondre à la question. Il y a l'apprentissage, la relation avec le prof, ainsi de suite. Mais j'ajouterais aussi la relation avec la matière.
Ouais.
Moi, je travaille beaucoup avec les élèves en difficulté en mathématiques. Puis, une de mes priorités, c'est que l'élève, quand il rentre en mathématiques, il dise « Yé, je m'en vais en maths ». En général, c'est pas les notions, c'est vraiment l'ambiance, ainsi de suite. Donc, dès que l'élève est content d'être en classe,
ça fait toute la différence.
Ben, il va en prendre mieux. Mm-hmm. Tu vas avoir moins de gestion et tout ça. Comment faire? Mais en rendant ça un peu plus réel, en faisant un peu plus de contextualisation, je suis pas très bien placée pour être en faveur de 50 exercices en un cours, puis si t'as pas fini, tu vas le finir en devoir, puis t'as 2 heures de devoir parce que t'as pas compris comment faire ta facto. C'est pas ça, les mathématiques. C'est beaucoup plus long. Même affaire pour l'anglais.
J'allais justement te dire.
Apprendre à aimer la langue, parce que l'anglais, c'est l'anglais, le français, c'est très, très vaste comme univers. Si t'apprends aux élèves à apprécier la matière, tu vas avoir la facilité beaucoup plus dans ton apprentissage.
C'est bien que tu le mentionnes parce que c'est... Je pense, peu importe la matière, on va toujours avoir des élèves qui ont, en fait, une relation négative avec la matière. Puis des fois, il faut briser ça avant qu'ils puissent apprendre parce que t'as bien beau faire le meilleur show d'humour en avant de la classe, bâtir des relations. Si l'élève ou l'apprenant n'aime pas la matière où il y a eu un vécu difficile ou peu importe, ben il est fermé à l'apprentissage. Fait que c'est important de prendre le temps également dans la planification parce que dans mes années d'enseignement, c'est ma 16e rentrée, ça m'est jamais arrivé d'avoir une classe qui tripait dans le tapis sur la matière. Il y a toujours quelques élèves qui n'ont pas nécessairement une belle relation avec la matière. Fait que oui, je planifie ça dans ma planification annuelle où est-ce que je prends un moment de aller justement mettre de l'avant t'sais, la matière, différentes activités, présenter la matière sur des aspects pas toujours techniques ou pédagogiques.
Ou qui n'est pas dans le programme, aller au-delà de... Mais c'est super important de penser à ça pour ta planif. Puis l'autre élément aussi à travailler sur la matière, sur comment faire en sorte que ton climat il y ait un peu plus d'apprentissage positif, c'est aussi les relations. Un ado, je vais parler pour le secondaire, un ado, c'est la période où est-ce que tu cherches à t'identifier avec socialement, ainsi de suite. Moi, dans ma classe, le travail d'équipe est primordial parce que je sais que c'est un besoin pour les élèves. Donc, quand je travaille mon climat de classe, mais je mets ça au clair, je fais « Vous allez travailler en équipe, vous allez socialiser, c'est important. » C'est une des missions de l'école québécoise. On doit socialiser, mais on va le faire correctement. C'est sûr que si c'est 55 minutes ou 75 minutes de travail individuel dans un cahier d'exercice en faisant 50 exercices, je pense que ça fait pas en sorte que ton milieu y est propice à un apprentissage beaucoup plus grand que juste des notions.
Ah, c'est en fait, c'est exactement ça. Ça va beaucoup plus loin. Donc, mettre de l'avant dans la création d'un environnement d'apprentissage positif, faut que ça en fasse partie. On avait parlé de l'évaluation, on avait parlé des différents exercices. Gestion de classe, ça, c'est essentiel, en fait. C'est comme un pilier, si on peut dire, en début d'année, surtout. On en avait parlé, il y a un balado, justement, où on discute de l'importance de la gestion de classe. Je pense que beaucoup d'enseignants, des fois, surtout les jeunes enseignants, ils mettent ça de côté parce que ils planifient pas à la gestion de classe. Pourtant, c'est essentiel. Pendant que je fais mes évaluations, je me fais également un barème de gestion de classe parce que c'est important de connaître ses propres limites. Oui, ils vont être poussés. Oui, on va être testés.
C'est obligé. C'est sa définition.
Ben, c'est ça. Mais la majorité ont tendance à comme sauter cette étape-là puis se disent « Ah, je vais gérer la discipline. »
Je vais y aller en prévention au lieu d'en prévention.
C'est exactement ça. Donc, c'est important. La gestion de classe, elle en fait partie de cette planification-là, à rebours-là, où est-ce que on se met des barèmes nous-mêmes en se disant « Bon, si tel aspect arrive, c'est quoi ma limite? Comment je vais gérer ça? » Donc, se faire un plan de match qui soit mis sur papier. On en a souvent vu des enseignants qui vont faire des contrats avec des élèves en début d'année.
Des contrats de classe.
Oui, des contrats de classe qui vont le présenter, souvent dans la première période, pas nécessairement obligé d'y aller cette étape-là. Si c'est votre façon de vous rassurer dans votre gestion de classe, allez-y. Je pense que c'est important de se connaître et connaître ses limites parce que la problématique, c'est qu'on se connaît pas souvent assez en tant qu'enseignant. On travaille beaucoup la pédagogie, on va travailler beaucoup le processus d'apprentissage, mais quand c'est une question aussi de sa personne, puis connaître ses limites, puis qu'est-ce qui nous dérange, puis des choses qu'on n'accepte pas, oui, c'est correct, mais qu'est-ce qu'on fait quand cette barrière-là est passée? Fait que c'est important de penser à ça avant même que ça arrive, comme tu l'as dit, en prévention.
Qu'est-ce qui est important aussi de comprendre, c'est que chaque prof est un être humain différent, qui a des valeurs différentes, qui a des... un niveau de patience différent. Plus on se connaît, mieux on est cohérent. Mais oui, un code de vie d'école. Mais ça se peut que le code de vie de l'école soit trop libre pour toi, ainsi de suite. Tu as le droit de spécifier tes besoins en tant qu'être humain, des valeurs. Exemple, moi, au début de mes cours, j'explique aux élèves, ma valeur principale, c'est le respect sur trois aspects. Je mets ça au clair, puis j'ai pas beaucoup de règles. Mais j'ai quatre règles que si ces règles-là sont pas écoutées, moi, en tant qu'être humain, je me sens pas bien. Puis ça rentre dans le climat d'apprentissage. Mais je les explique. J'explique pourquoi ces règles-là sont importantes pour moi, puis pourquoi je vais mettre l'accent là-dessus. Il n'y en a pas un million parce que non plus, un jeune ne veut pas non plus avoir trop de règles. Mais quand ils sont établis, que le cadre est qui est expliqué de manière humaine.
Et qui est appliqué.
C'est très important. Mais c'est beaucoup plus facile parce que après, tu fais référence tout le temps à trois, quatre règles importantes.
Ça, c'est ça. Puis l'application de ces règles-là, on le voit souvent que. Parfois, il y en a qui, tu sais, ils vont laisser passer des choses. Moi, dans mes cours, je parlais comme toi, j'avais pas nécessairement beaucoup de règles, tu sais, mentionnées, mais dès qu'il y avait une règle, que, comme tu dis, le respect ou la confiance, moi, j'étais vraiment très prône sur la confiance, le respect mutuel, en fait, entre toutes les personnes impliquées dans ce processus d'apprentissage. Du moment que quelqu'un brisait, en fait, allait trop loin, ben moi, j'arrêtais. Et là, je faisais vraiment, comme je disais, ça, c'est inacceptable. Donc, je venais appliquer dès le début, que c'était ça. Des fois, c'était la première semaine d'école, puis ils vont tester. Et l'application, c'est important de le commencer dès le départ, puis de le spécifier, expliquer pourquoi c'est inacceptable, de verbaliser que ça passe pas, et voici pourquoi. Pas juste réprimander l'élève, parce que des fois, ce qui arrive souvent, c'est on n'a pas aimé ça, puis là, on va réprimander l'élève, tu vas en retenue, tu vas avoir un samedi, ainsi de suite, mais sans nécessairement dire, ben ça, c'est inacceptable, on a déjà discuté, c'était ma limite, tu l'as dépassé, donc voici les conséquences qui vont s'attitrer à le comportement inacceptable que tu viens de faire dans mon cours. Fait que ça, l'application, elle a tendance à passer en douce beaucoup quand on est jeunes enseignants, où est-ce que notre patience est un petit peu plus grande, mais c'est pas en fait une question de patience, c'est une question de connaissance de son groupe et de la compréhension de l'application de ces règles-là pour avoir une meilleure gestion de classe. Et justement, dans notre balado, on vous invite à l'écouter pour la gestion de classe, on vous donne justement des trucs concrets de comment gérer votre classe dès le départ pour que justement, vous puissiez créer un environnement propice à l'apprentissage et créer un respect mutuel entre toutes les parties impliquées.
Faut penser aussi que on développe des êtres humains, des futurs citoyens. Notre métier, il est super important. Puis c'est pas à cause qu'on apprend des notions aux élèves. On apprend tellement plus. Exemple, moi, je prône pas lever la main dans ma classe. J'aime mieux apprendre à mes élèves à, lorsqu'il y a un silence, t'as le droit d'intervenir, ainsi de suite. Mais je leur montre que pour le respect, tu coupes pas la parole, ainsi de suite. Mais dans ma classe, personne ne lève la main quelque part. Puis c'est correct. On a réussi à établir un environnement propice à, parce que c'est rare que dans une société, on lève la main pour parler. Mais on apprend, c'est quand le bon temps, ainsi de suite. Mais c'est le même principe. Tes règles dans ta gestion de classe, pense pas juste dans ta classe, pense au développement futur. Puis c'est tellement important de développer ça en tant qu'humain.
Oui, oui, oui.
Fait que ça se planifie.
Oui, ça, la gestion de classe, essentiel que ça se planifie. Les évaluations, c'est essentiel que ça se planifie. Les objectifs qui sont clairs et les différentes variantes d'évaluation et également de la mise en contexte de l'apprentissage. Et pour finir en beauté, parce que, tu sais, on pourrait en parler pendant des heures avec tout ça, mais on n'en parle peut-être pas assez souvent, mais les relations de travail entre les collègues, parce que, selon moi, ça se planifie aussi. Pas nécessairement aussi détaillé de manière pédagogique concernant les apprentissages, mais vous travaillez dans un environnement où est-ce qu'il y a des collègues, vous avez des professionnels comme vous qui se retrouvent, en fait, dans le même bateau. Et souvent, je vais me planifier un peu comment je vais entretenir ou établir des relations amicales, des relations professionnelles entre mes collègues, parce que souvent, ben, une belle façon de le faire, c'est de faire des projets interdisciplinaires. Donc, établir des objectifs dans la planification et dire, ah, ça serait le fun, par exemple, en anglais. Ah, j'aimerais ça faire un projet qui implique des mathématiques. Peut-être que je pourrais aller établir un lien professionnel.
Ça, c'est un beau duo, maths, ouais, hein, maths anglais, j'aime bien ça.
J'ai choisi mathématiques, mais c'est sorti de même. C'est une belle façon d'entretenir justement une relation professionnelle et de promouvoir le partage entre collègues, parce que c'est déjà difficile, tu sais, il faut faire des relations avec des élèves, il faut faire la planification, mais parfois, on a tendance à oublier un moment clé, c'est les collègues, parce que les collègues, ça peut faire toute la différence, en fait.
Mais ça rend dans l'environnement propice, positif du travail aussi, là.
Donc, est-ce qu'il y a une façon de faire de la planification pour...
Les relations au travail?
Oui.
Bonne question, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de directions qui travaillent en début d'année pour faire des activités entre collègues, surtout pour inclure les nouveaux. Donc ça, je trouve ça quand même important. Puis ça rentre dans une planification, mais de la direction. Pour toi, en tant qu'enseignant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Mais ça dépend, c'est quoi ta personnalité, mais tu peux planifier d'aller dîner, luncher avec certains collègues pour jaser, mais pas juste de la matière, mais au-delà, pour avoir un potentiel de travail d'équipe, ainsi de suite, parce que c'est... Plus tu travailles ta relation en dehors des notions de la matière du programme, plus ça va être facile d'aller vers la personne si tu as un besoin durant l'année.
Oui, oui, ben tu vois, moi ça en fait partie un peu de ma planification, de me dire de participer plus souvent sous l'heure du dîner, parce que des fois on reste dans nos bureaux, hein, on est tellement en mode âge des évaluations, mais des fois je me dis non, là tu vas arrêter, tu vas aller socialiser en fait avec les collègues, puis tu l'as bien mentionné, c'est sortir un peu du cadre scolaire, puis établir des liens un petit peu plus personnalisés avec chaque personne, parce qu'à l'extérieur, ça surprend beaucoup d'élèves puis d'étudiants. À l'extérieur de notre métier, on est des personnes et on a des passions, des préoccupations, ainsi de suite. Donc, c'est important de justement bâtir cet aspect-là, de connaître une personne au-delà de son métier. Donc, pour moi, ça commence toujours de me dire, non, là, tu vas aller dîner, tu vas aller faire des activités un petit peu plus sociales que des fois la direction va offrir. Ou est-ce que des fois, on n'ose pas participer, on se dit, ah, on connaît pas quelqu'un, on connaît pas personne. Mais je me dis, j'exige à mes élèves de socialiser entre eux pour certains travaux, donc je ne vais pas faire partie de cet enseignant-là qui dit « faites ce que je dis et non pas ce que je fais », donc j'essaie de prôner par exemple, et c'est la même chose que je conseille à tous les enseignants, en fait. Ben, ça fait le tour. Ben, le tour,
mais, c'est pas le tour, mais il y a des beaux trucs, belles astuces pour partir l'année du bon pied. La seule chose que je rajouterais aussi, c'est prendre connaissance des plans d'intervention avant les évaluations. La planification à rebours rentre aussi là-dedans. Lis-les, comprends-les pour que tu comprends mieux tes élèves aussi.
Oui, parce que présentement, la réalité, c'est entre 20 et 30 % par classe.
Oui, il y en a pas mal.
Oui, donc c'est important justement d'ajuster ces activités en fonction de ces élèves-là. Fait que des fois, on peut tout simplement un peu... désolé l'anglicisme, tweaker certaines planifications qu'on a parce qu'on réalise que cette année, ben on a beaucoup plus d'élèves qu'ils ont soit une dyslexie ou quoi que ce soit. Donc, on peut ajuster ce qui est déjà existant juste pour l'adapter mieux pour ces personnes-là. Puis, ça va passer encore bien pour le reste.
Il y a beaucoup d'enseignants qui lisent les plans d'intervention lors de l'évaluation.
Rendu à l'examen.
Moi, dans ma on commence, là, on est en journée de planification, et ainsi de suite. Moi, j'ai un après-midi que je m'assois puis je lis, juste pour faire, OK, j'ai un topo de qu'est-ce que... puis ça rentre, avant de prendre mon intention pédagogique, je prends connaissance des plans d'intervention parce que ça peut changer aussi mon intention selon la constitution de la classe des élèves. Donc, prenez le temps, c'est tellement pas une perte de temps, là.
Non, honnêtement, c'est excellent que tu l'as mentionné. Je pense que ça serait intéressant, justement, là, cette saison-ci, qu'on en parle des plans d'intervention dans un futur balado. Ça pourrait être intéressant, on pourrait démystifier. On avait parlé des HPI la saison passée. On pourrait un peu parler de la neurodivergence et qu'est-ce que ça implique pour un enseignant lors de la planification. Donc, ça pourrait être super intéressant. De toute façon, on vous a organisé une saison de feu avec des invités. On en a toujours des invités extraordinaires, mais on vous le promet, cette année, ça va être encore meilleur.
Ça va être magique.
Ça va être magique. On vous prépare de belles surprises également tout au long de la saison et on est bien contents. On vous souhaite une belle rentrée réussite et une belle rentrée adaptée à vos besoins individuels d'enseignants, peu importe le niveau que vous avez. Et surtout d'avoir du plaisir, ayez du plaisir, prenez le temps de vous connaître comme enseignant et de vous respecter comme enseignant et également prenez le temps de bâtir une belle relation en ce début d'année-là avec vos apprenants.
Ah, ça va être gagnant. C'est un beau souhait pour tout le monde.
Exactement. Et n'oubliez pas, pour tous vos besoins en évaluation, visitez zelexio.com. Merci beaucoup. À notre prochaine. Merci Stéphanie. C'est rare qu'on en fait juste moi et toi, mais c'est
toujours un plaisir.
Effectivement. Donc, à notre prochaine balado avec un écrit surprise. Merci à tous.
Bonne journée. Gardez toujours sa bonne humeur. Gardez sa bonne humeur. Gardez sa bonne humeur. Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. C'est ça le secret du bonheur.